Évangile de Luc, chapitre 15. Et avant de lire ce texte, je vais encore remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence, pour ces chants qui ont préparé nos cœurs. Et nous savons que tu es présent parce que tu as dit que là où deux ou trois s'assemblaient en ton nom, tu étais au milieu d'eux. Mais ce que nous désirons, c'est que tu puisses encore parler à nos cœurs. Et que ta parole soit comme cette épée à double tranchant qui vient rentrer dans le cœur et qui vient nous montrer les choses telles qu'elles sont. Seigneur, ce n'est pas la chair et le sang qui font ces choses, mais c'est ton esprit. Et ce que nous te demandons, c'est que cet après-midi encore, ton esprit puisse souffler sur nos cœurs. D'avance, nous te disons merci, Seigneur, et nous choisissons de mettre notre confiance en toi pour cet après-midi. Que encore des vies soient sauvées, que des vies soient transformées et bouleversées par ton amour. Amen. Alors on va lire ce texte qui se situe dans l'évangile de Luc au chapitre 15. On va lire les trois premiers versets et puis ensuite on lira à partir du verset 11. Il est écrit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Et on va au verset 11. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. On arrête la lecture ici. Alors, le but de ce message cet après-midi, c'est lequel ? Le but de ce message, c'est qu'on puisse répondre à deux questions. Qu'est-ce que c'est qu'être sauvé ? Qu'est-ce que c'est qu'être perdu ? Parce que souvent, on entend dans les églises, vous êtes sauvé, vous êtes perdu. Mais qu'est-ce que c'est réellement ? Et au final, après, on puisse se poser cette question, est-ce que je suis sauvé ? Ou est-ce que je suis perdu ? C'est ça la question. Et pour nous aider, eh bien, on va méditer sur cette parabole. Alors, c'est quoi le contexte de cette parabole ? On l'a lu au verset 1er. Au verset 2, on voit des pharisiens. Au verset 2, il nous écrit que les pharisiens et les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et Jésus va ensuite leur donner trois paraboles. Il y en a une qu'on appelle la brebis perdue, une autre qui s'appelle la drachme perdue et une autre qu'on appelle généralement la parabole du fils prodigue ou du fils perdu. Mais on voit qu'au final, cette parabole a été donnée pour des pharisiens parce que Jésus voulait expliquer à ces hommes de la loi, les pharisiens c'était les religieux de l'époque, Jésus voulait leur expliquer pourquoi ils passaient du temps avec des gens de mauvaise vie. Parce que ces pharisiens, ils ne pouvaient pas comprendre ça. D'ailleurs, c'est écrit qu'ils murmuraient. Pourquoi ? Parce que pour eux, quelqu'un qui venait de la part de Dieu ne pouvait être en compagnie de personnes qui avaient une mauvaise vie. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est parfait. Et Dieu n'aime pas le péché. Alors pour eux, ils disaient, il y a une incohérence, puisque au final, cet homme dit venir de Dieu, et en plus, il était Dieu, et il passe du temps avec des gens de mauvaise vie. Alors Jésus va faire et donner cette parabole pour qu'ils leur expliquer pourquoi ils passaient du temps avec eux. Et au final, en lisant ces trois paraboles, on voit que si Jésus passait du temps avec les pécheurs, c'est pas parce qu'il aimait le péché, mais c'est parce qu'il voulait que ces pécheurs arrivent à la repentance. On le voit où ? On le voit à la fin de chaque parabole. Au verset 7, fin de la première parabole, il nous est dit « De même, je vous le dis, » donc il parle aux pharisiens, « il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Au verset 10, à la fin de la deuxième parabole, il dit « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Verset 32, la fin de la parabole du fils prodigue, mais c'est le père qui répond à son deuxième fils. Il dit « Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. » Donc on voit que si Jésus passait du temps avec ces gens de mauvaise vie, c'est pas parce qu'il aimait leur péché, mais c'est parce qu'il voulait amener ces personnes à la repentance. Le royaume de Dieu, quand Jésus a commencé à prêcher, il nous a dit qu'il a prêché le royaume de Dieu et la repentance. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il nous a dit qu'il a prêché la repentance. Quand Pierre a prêché la première fois, il nous a dit qu'il a prêché la repentance. Et le but de Dieu dans la vie du pécheur, c'est de l'amener à la repentance. Alors on va se poser cette question. Qu'est-ce que c'est que la repentance ? Alors on a cette parabole. Au début de cette parabole, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a un homme qui avait deux jeunes fils. Cet homme représente Dieu, le Père. Les deux jeunes fils représentent ses enfants, des hommes. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit le premier, au verset 13, il nous est dit, au verset 12, pardon, que le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. On voit donc un homme, qu'est-ce qu'il va faire ? Qui va demander à son père la part de son bien, l'héritage. Donc en gros, résumé, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, voilà, quand tu seras mort, j'aurai une part d'héritage, mais j'aimerais que tu me la donnes maintenant. En gros, il considère son père, il méprise son père. Il demande à avoir son héritage avant même que son père soit décédé. Et on voit qu'est-ce qu'il fait, donc au verset 13, et peu de jours après, il partit pour un pays éloigné. Et là, on a la réponse à la première question. Qu'est-ce que c'est qu'être perdu ? Être perdu, c'est partir loin de Dieu. Être perdu, c'est être éloigné de Dieu. Être perdu, ben, c'est ne pas aimer Dieu et c'est le déshonorer. Ça, c'est ce qu'on appelle la perdition. Pourquoi ce fils, il est parti ? Il nous est dit qu'il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme ? Ben, tout simplement, ce qu'il cherchait, c'était son plaisir personnel. C'était son plaisir à lui. Et ce qu'il voulait faire, au final, il a voulu partir loin du Père parce que ça devenait trop contraignant et qu'au final, il n'arrivait pas à s'épanouir dans la maison du Père. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a vécu sa vie égoïstement et il est parti loin de Dieu. Et cet homme vivait pour ses intérêts à lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'aimait pas son Père. Alors on peut se poser cette question, parce que le but de ce partage, c'est de pouvoir l'appliquer à notre vie. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai dans ma vie ? Parce que vous savez, ce que vous avez dans votre vie, c'est Dieu qui vous l'a donné, ou plutôt prêté. Qu'est-ce que je fais de mon temps ? Qu'est-ce que je fais des biens que j'ai ? Qu'est-ce que je fais au final de ce que Dieu m'a donné ? À quoi je l'utilise ? Et on a dans un texte, ne le cherchez pas, je vais le lire pour vous, dans l'Épître aux Philippiens, où c'est l'apôtre Paul qui oppose le vrai chrétien et le faux chrétien. Et il dira, à un moment, au chapitre 3, verset 18, « Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. » Donc il nous parle de ceux qui sont perdus. « Ils ont pour Dieu leur ventre. » Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et voilà la définition de quelqu'un qui est perdu. Qu'est-ce que l'on voit dans la suite de cette parabole ? On voit qu'il a bien profité de ses biens. Et c'est vrai que cet homme, il a profité, de ce qu'il avait. Il l'a dépensé dans la débauche, et forcément, il a dû en recevoir un certain plaisir, on va dire, puisqu'il a eu ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous est dit, au verset 14, « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. » Et là, on voit qu'après avoir eu une certaine dose de joie, eh bien, il se retrouve dans le besoin. Comme on dit, après la fête, la défaite. Eh oui. Et la Bible dit qu'une fois que le péché a été consommé, il produit la mort. Sauf que là, il se retrouvait dans le besoin, mais il était loin du Père. Et il s'est vraiment retrouvé en difficulté. Et peut-être que c'est vrai que vous avez péché, vous avez profité égoïstement de ce que Dieu vous avait donné, et vous vous retrouvez dans le besoin. Besoin de quoi ? Bah, besoin d'amour, besoin de paix, besoin de joie. Et au final, vous avez ces besoins-là, mais vous n'arrivez pas à les assouvir. Et vous n'êtes pas bien. Alors c'est sûr, vous pouvez continuer à pécher, encore utiliser le peu qui vous reste dans le péché, mais ça n'assouvira jamais ce dont vous avez besoin. Alors que fait cet homme ? Eh bien, dans ce pays étranger, il cherche à subvenir à ses besoins. Comment ? Eh bien, en se mettant au service d'un homme de ce pays. Ça, c'est l'image de ceux qui cherchent dans le monde, c'est-à-dire en dehors de Dieu, loin de Dieu, des choses pour subvenir à leurs besoins. En gros, ce sont les personnes qui cherchent à être heureux, épanouis, loin de Dieu. Et on voit qu'au final, cet homme qui ne voulait pas servir son père se retrouve à servir un homme dans le pays. Et que fait cet homme ? Il lui fait garder des cochons. Eh oui. Et vous savez, on est toujours au service de quelqu'un ou de quelque chose. Si ce n'est pas de Dieu, c'est d'autre chose. La Bible dit, c'est dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 19, que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et c'est vrai que dans ce monde aujourd'hui, beaucoup sont esclaves. Esclaves de vice, esclaves d'avarice, esclaves du mensonge, esclaves de choses qu'on ne peut même pas citer du haut de l'estrade, tellement c'est honteux. Et les gens aimeraient s'en sortir, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont esclaves. Et ce qu'ils pensaient être un moyen d'épanouissement se retrouve à être un tyran qui les enferme dans des prisons. Au début, on pense être libre, et puis à la fin, on se rend compte, le temps passant, que l'on est esclave. Et donc cet homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il garde des pourceaux, et même, il aimerait manger ce que mangent les pourceaux, mais c'est écrit qu'on ne lui donne même pas cela. Et là, on voit que cet homme a perdu sa dignité. Il n'est plus digne. Et ça, c'est le résultat du péché. C'est le résultat d'une vie loin de Dieu. Au final, cet homme qui était le fils d'un homme riche ne peut même pas manger ce que mangent les cochons. Et ça, c'est le résultat du péché. Dieu veut donner l'abondance. Dieu est riche en bénédiction, en miséricorde. Mais à cause du péché, à cause de l'égoïsme de cet homme, à cause du fait qu'il voulait vivre pour lui, cet homme se retrouve dans la difficulté. Et là, rappelons-nous, les pharisiens écoutent l'histoire. Et pour les pharisiens, je pense que c'était tout à fait normal. Parce que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, cet homme correspondait à ces hommes de mauvaise vie. Il avait eu une mauvaise vie. Et au final, il a déshonoré les commandements de Dieu, qui dit par exemple « Honore ton père et ta mère ». Cet homme a complètement déshonoré son père et aussi sa mère. Cet homme, il avait commis des relations de débauche. Ça, c'est des relations sexuelles en dehors du mariage. Dieu réprouve ces choses-là. Et il l'a fait. Cet homme, il gardait des cochons. Alors pour un juif, c'était le comble du malheur. Il ne fallait pas s'approcher des cochons. C'était des choses impures. Et au final, c'est vrai que pour ces pharisiens, ils devaient se dire, bah, cet homme-là, il a ce qu'il mérite. Il est allé, il a vécu loin de Dieu, il a vécu pour lui-même, égoïstement, il a méprisé son père, il a méprisé son Dieu, puisqu'il est parti du pays, donc à cette époque-là, c'était l'image de s'éloigner de Dieu, il a ce qu'il a. Et pourtant, on voit dans cette parabole que c'est dans cette situation-là que cet homme va revenir à Dieu. Cela veut dire que pour nous, il n'y a aucune situation qui soit trop grave, il n'y a aucune situation dégradante dans laquelle vous pouvez être où Dieu ne peut pas vous sauver et où vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est dans cette situation-là, dans cette vie qui était mauvaise, dans cette vie où la dignité a été complètement perdue, que cet homme va revenir vers son Père. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes cet après-midi, vous pouvez revenir vers votre Père. Et ça, ça n'a pas dû beaucoup plaire aux pharisiens. Alors qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là ? Eh bien, il va se rappeler de ceux qui travaillaient chez son Père et qui sont dans l'abondance. On l'a lu au verset 17. « Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. » Et littéralement, ce n'est pas le mot « ouvrier », c'est le mot « mercenaire ». C'est quoi un mercenaire ? Un mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour un salaire. Ça veut dire que chez son Père, il y avait des gens qui au final servaient le Père, mais pas parce que c'était des fils, parce qu'ils avaient un salaire. Et il se rappelle que ces personnes-là, eh bien, elles étaient mieux loties que lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? On pourrait se dire « Ah, il se repent ». Non, il ne se repent pas. Il cherche juste un meilleur travail, mieux rémunéré. Et il se rappelle que chez son Père, c'est mieux payé. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Ah, je vais retourner voir mon Père ». Mais par contre, il a compris quelque chose. Il va prendre conscience de deux choses. C'est que même s'il va retourner vers son Père pour un salaire, il va prendre conscience, on le lit au verset 18 et 19, il va dire « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai » deux choses. « Mon Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. » La première chose qu'il va réaliser, ce fils, c'est qu'il a péché. Il a péché. La deuxième chose, c'est, il va dire, « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » J'ai péché, je ne suis pas digne. Et ce fils, à ce moment-là, quand il est rentré en lui-même, il a réalisé ces deux choses-là. On peut lire dans le livre d'Ésaïe, je vous le lis, c'est un texte où Dieu parlera à son peuple et il dira « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et au final, si cet homme était dans cette situation-là, ce n'était pas à cause de Dieu. C'est parce que cet homme-là avait méprisé Dieu. Et il a réalisé que la vie qu'il avait était une vie qui avait déshonoré Dieu et qui avait enlevé toute dignité. C'est ça, commencer la première étape de la conviction de péché. C'est réaliser que Dieu est saint, mais que nous sommes pécheurs. Que nous sommes éloignés de lui et qu'à cause de nos actions, à cause de nos péchés, nous ne sommes pas dignes de venir dans sa présence. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Parce que là, pour l'instant, c'est pas très joyeux. On va voir ce qui se passe, c'est la suite de la parabole, c'est ce qui se passe du côté du Père. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors là, on va voir tout simplement l'attitude que Dieu a pour quelqu'un qui se repent, qui revient, qui choisit de revenir à Dieu. Alors c'est vrai que c'est pas parfait, parce que là, il revient pour un salaire. Mais il revient quand même. Et c'est vrai que si vous venez à l'église parce que vous vous rendez compte, vous voulez être béni, bah c'est une bonne chose. Vous avez raison, parce que Dieu bénit. Mais que fait le Père ? Que fait cet homme qui a été outragé par son fils ? Cet homme qui a été méprisé par son fils, quand son fils revient ? Et attention, c'est vraiment dans le cadre de la repentance. Eh bien, il nous est dit, au verset 20, que son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut et il l'embrassa. Il fut ému de compassion. Et on peut lire, c'est dans le psaume 103, je vais le lire pour vous. Voilà. Dans le psaume 103, on trouve ce texte qui nous dit, à partir du verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, ça veut dire quoi? C'est ceux qui le respectent. C'est ceux qui arrêtent de le mépriser, mais qui commencent à avoir cette attitude de respect envers Dieu. Son père le vit et fut ému de compassion. Pourquoi Jésus passait du temps avec ces hommes de mauvaise vie? C'est parce qu'il avait de la compassion pour eux. Après, c'est nous est dit qu'il courut. Et ça, c'est un signe d'humilité. Pourquoi? Parce que cette parabole, son contexte, c'est le Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, j'ai appris ça d'un pasteur qui avait son père qui était libanais et qui était noble. Un noble, ça ne court pas. Un noble, c'est lent. Un noble, ça se fait attendre. Et ce pasteur racontait que quand il était petit, il courait et il se prenait des claques. Parce qu'un noble, ça ne court pas. Parce que pour courir, comme il y a la tunique, il faut lever un peu la tunique et puis on court. Et ça, c'est l'image d'humilité. Alors que ça aurait dû être le fils qui revenait en courant, on voit que c'est le père qui s'est humilié devant les autres et qui a couru vers son fils. Et ça, ça nous parle de l'humilité du Seigneur. Dans l'épître aux Philippiens, il nous était parlé justement de ces hommes qui ont pour Dieu leur ventre, que leurs intérêts, mais il nous est dit au chapitre 2 et au verset 5 quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'apôtre Paul y dira aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, comme quelque chose, on va dire, de plus important, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et on voit que le Père, qui avait été outragé, va aller à la rencontre du Fils. Et il nous est dit qu'il l'embrassa. Ça veut dire qu'il va démontrer son amour. Et ça, la Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est à ce moment-là que se produit la vraie repentance. Parce que le Fils, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant ». Enfin, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé son enfant. Mais là, il ne demande plus à être embauché, parce qu'il a conscience de ce qu'il avait méprisé ce père qui l'aimait. Et le vrai problème du fils, c'était quoi? C'est qu'il n'aimait pas son père. Être perdu, c'est quoi? C'est tout simplement mépriser Dieu. Il était, on va dire, dans l'église, puisqu'il était avec son père, et pourtant, malgré le service qu'il faisait, il méprisait Dieu. Et vous savez, vous pouvez venir à l'église, vous pouvez chercher à être béni à l'église, mais l'important, c'est pas de venir à l'église. L'important, c'est d'aimer Dieu. Et on voit que par contre, pour le Père, ce qui lui importait, c'était pas la part d'héritage qu'il a perdue, c'était pas au final le service que son fils allait lui rendre. Ce qui importait au Père, c'était son fils. C'était la relation qu'il avait avec le Fils. Et on pourrait se dire, bah tiens, le Père, il va accepter le service. D'accord, je t'embauche comme un de mes ouvriers. Comme ça, tu rembourseras la dette que tu me dois. Eh bien non. On voit que c'est le Père qui va donner ce qu'il a de plus précieux pour ce Fils qui l'a méprisé. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Cela veut dire que Dieu il nous est dit qu'il fait miséricorde et qu'il fait grâce. La miséricorde, au final, c'est qu'il ne nous traite pas comme nous méritons. Mais la grâce, c'est qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas. Et lorsqu'on revient à Dieu, lorsqu'on se repent, parce que là, c'est dans le cadre de la repentance, Dieu n'impute pas nos péchés, ça veut dire qu'il ne nous traite pas comme on mériterait, mais en plus, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Mais le salut, c'est pas ça, c'est pas juste ça. Le salut, c'est que ce Fils qui avait méprisé son père, va comprendre que son père l'aimait et il va s'attacher à lui. Et on se doute bien que quand ce fils va se remettre à servir son père, ça va plus être pour un salaire, mais ça va être parce qu'il aime son père. Et si vous venez à l'église juste parce qu'il faut mettre en pratique ceci ou cela sans aimer Dieu, ça ne va pas marcher. Parce que l'amour de Dieu consiste à obéir. Donc s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'obéissance. Mais si par contre on aime Dieu, on arrête de le mépriser, alors notre comportement commence à changer. On voit que ce père va lui donner une tunique, et pas n'importe laquelle, la plus belle. Ça veut dire que la tunique sale qu'il avait, Dieu va l'enlever. En gros, les souillures, ce que l'on a fait, les saletés dans notre vie, Dieu l'enlève et il nous donne une nouvelle tunique, la plus belle. Pas celle qui reste, c'est la plus belle qu'il y avait dans la maison. Il va lui donner un anneau d'or. Ça, c'est l'image de l'alliance. La tunique, c'est l'image d'un cœur nouveau. Parce que quand on vient à Dieu, il change notre cœur. Les souliers, c'est l'image d'une nouvelle marche. Parce que quand on a été confronté à l'amour de Dieu, on ne marche plus de la même manière. Et il va tuer le veau gras. Ça veut dire qu'ils vont faire la fête. Parce que, comme on l'a lu, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, pour un homme qui revient à son Dieu et qui choisit de l'aimer, qui comprend qu'il n'est pas digne, qu'il a péché, que s'il y a des problèmes dans sa vie, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de son péché, mais qui revient à Dieu, à ce Dieu qui aime et qui pardonne. Et donc on voit que même si au début, ce fils, il agissait par intérêt, Dieu n'est pas comme nous. Et Dieu agit dans notre intérêt à nous. Dieu ne va pas demander un remboursement, on va dire, ne va pas nous demander de payer pour nos fautes, non. Dieu a payé lui-même pour nos fautes. Comment ? En envoyant Jésus sur la croix. Lorsque Jésus est allé sur la croix et est mort pour nos péchés, c'est nos fautes, nos dettes, la colère qui nous revenait, qui est tombée sur Jésus. Et au final, Dieu a payé le prix pour que nous, nous soyons sauvés. C'est ça, la grâce de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il demande ? Il nous demande de nous repentir, ça veut dire de changer d'attitude vis-à-vis de lui. Et cet après-midi, vous avez ce choix de changer d'attitude par rapport à Dieu, mais aussi de croire au sacrifice de Jésus. Que tous vos péchés ont été pardonnés parce que Dieu a donné son Fils sur la croix. C'est ça, la grâce de Dieu. Mais ce qu'il vous demande, c'est de vous repentir et de croire en son sacrifice. Et si on se repent, et si on croit, alors, là c'est la réponse à la deuxième question, on est sauvé, et effectivement, il y a de la joie. Il y a de la joie dans le ciel, c'est vrai, mais il y a aussi de la joie dans notre cœur à nous, parce qu'on est réconcilié avec Dieu. Et au final, ce que l'on voit, c'est que ce fils, il se comportait comme un mercenaire au début, parce qu'il était chez son père, mais on voit que c'était pour son intérêt, pour ce qu'il gagnait, mais à la fin, on voit que ce fils, il revient auprès du Père, non plus par intérêt, mais par amour. C'est quoi être sauvé ? C'est aimer Dieu. Et c'est vouloir passer ce temps présent, mais aussi l'éternité dans sa présence. Parce que si vous n'aimez pas Dieu, enfin, je vais dire une expression, elle n'est pas géniale, mais le ciel, ça va être l'enfer. Parce que le ciel, c'est la présence de Dieu. Et si vous ne l'aimez pas, je ne vois pas ce que vous ferez là-haut. Mais par contre, si vous choisissez d'aimer Dieu, de l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, alors vous n'aurez qu'un seul désir, c'est de passer l'éternité avec lui, c'est le ciel. Alors on pourrait parler aussi du deuxième frère, mais comme on n'a pas le temps, on ne va pas aborder ce point, mais on voit que ce frère, eh bien, au final, il était resté dans la condition primaire de l'autre, parce que ce qui va importer pour lui, c'était ce que son père a perdu. Au final, lui, il avait les yeux que sur ses intérêts. En gros, il avait perdu l'héritage et il ne supportait pas la grâce. C'est-à-dire qu'au final, il ne supportait pas que le Père puisse pas juste effacer la dette, mais en plus de cela, donner à celui qui s'était repenti. Et ça, c'était l'image des pharisiens. Si le Seigneur a donné cette image-là, c'était pour expliquer qu'aux pharisiens, Dieu n'était pas venu pour instaurer une sorte de propre justice, mais que Dieu était venu pour faire grâce. Et ces pharisiens, eux, ils sont restés loin de Jésus, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mériter le salut, alors que ces publicains, il nous est dit au verset premier, c'est eux qui se sont approchés de Jésus. Et au final, les pharisiens, qui eux n'avaient pas une vie si mauvaise que ça, ne sont pas approchés de Jésus, mais ceux qui avaient une vie sale, souillée, indigne, se sont approchés de Jésus. Et probablement, il y en a eu parmi eux qui ont été sauvés. Je vais laisser la fin du message à Nicolas.
Amen. La fin du message, tout est dit. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. C'est vrai, comme il disait, il pouvait y avoir des personnes de mauvaise vie qui étaient là, qui étaient autour, qui se sont approchées pour l'entendre. Et vous êtes venus, vous avez entendu. Et il y a ceux qui, après l'avoir entendu, se sont approchés pour aller plus loin. Et en le recevant, en acceptant, en recevant la grâce de Dieu, en recevant son pardon, en recevant sa paix, en recevant son amour, tout ce qu'on en a partagé, l'héritage. C'est vrai que le Père n'est pas contre l'héritage, même si dans cette parabole on voit une attitude mauvaise que le Fils a eue contre son Père, mais c'est pas ce qu'il lui a reproché. Et c'est vrai qu'il y a un héritage que le Seigneur veut nous donner, qui est immense et qui est merveilleux, extraordinaire, dans lequel il veut nous donner d'entrer, de découvrir, de connaître, dès ici-bas, dès maintenant, mais jusque dans l'éternité. Alors vous qui êtes venus, qui avez entendu, eh bien il y a une décision à prendre, je crois pour certains, décision importante, c'est justement cette attitude de cœur, d'entrer en nous-mêmes, de reconnaître, peut-être les erreurs, peut-être les le péché, ce qui a été jusque-là une séparation entre Dieu et nous, et d'avoir cette attitude de reconnaître, de vouloir se repentir, et en même temps de revenir au Père, de s'attacher à lui, comme nous le voyons dans cette parabole. La solution, elle est là, c'est notre part. Alors on va prendre un dernier cantique. Et je vous invite vraiment sur votre chaise, ça peut se faire très simplement, vous savez, cette attitude de foi, cette attitude de cœur, ça vous appartient, c'est un choix personnel. Dieu ne force personne et on n'est pas là pour forcer qui que ce soit non plus. Mais il y a vraiment une décision importante qui peut tout changer, tout transformer dans votre vie, dans votre cœur. Et vous donner de repartir de ce lieu, eh bien, comme Michael le disait, en ayant le cœur tout joyeux. On sait que c'est vrai, dans le ciel il y a de la joie pour un pécheur qui se repent, mais il y a une réelle joie quand on donne sa vie entre les mains de Dieu, quand on remet toute chose entre ses mains, quand on s'abandonne à lui. Et le Seigneur veut agir encore cet après-midi, alors que voilà, vous puissiez sentir libre, soit eh bien de rester sur votre chaise. L'important, c'est vraiment de se tourner vers Dieu dans ce temps, ou soit de venir sur le devant. Si vous avez besoin que l'on prie pour vous, eh bien, nous sommes à votre disposition avec Michael. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.